Le baptême de Jésus par Jean fut afin de recevoir le transfert des péchés du monde. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Que savons-nous de l'univers ? L'étendue de l'univers que nous connaissons actuellement est extrêmement vaste. Les scientifiques estiment qu'il existe un univers observable d'un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. C'est une valeur calculée en considérant la distance maximale que la lumière aurait pu parcourir depuis le Big Bang, c'est-à-dire un âge d'environ 13,8 milliards d'années, ainsi que le taux d'expansion de l'univers. Au sein de celui-ci, il est rapporté qu'il existe environ 2000 milliards de galaxies ou plus, et bien plus d'étoiles encore. Selon le modèle standard actuel, l'univers est composé d'environ 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie noire. Cependant, la matière noire et l'énergie noire n'ont pas été directement observées, et elles ne sont estimées que par des preuves indirectes telles que la gravité et le taux d'expansion de l'univers. En observant le rayonnement de fond diffus cosmologique qui s'est formé environ 380 000 ans après le Big Bang, nous pouvons reconstituer l'état de l'univers primordial, mais l'ère de Planck, immédiatement après le Big Bang, reste encore un domaine inconnu. Notre processus de compréhension plus approfondie de l'univers est dû au développement de la technologie d'observation. Grâce au télescope spatial Hubble, au télescope spatial James Webb et au grand télescope terrestre, nous sommes devenus capables d'observer des galaxies à des distances toujours plus grandes et datant d'époques plus anciennes. En particulier, le télescope spatial James Webb a observé des galaxies situées à 13 milliards d'années-lumière et est en train de réviser les théories sur la formation de l'univers primordial. Par le passé, les observations se concentraient sur la lumière visible, mais nous saisissons désormais l'univers de manière tridimensionnelle grâce à des observations d'ondes radio, d'infrarouges, de rayons X, d'ondes gravitationnelles et de neutrinos. Les observations d'ondes gravitationnelles ont ouvert une percée majeure dans la compréhension de phénomènes extrêmes tels que les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. De plus, en utilisant des supercalculateurs de très grande taille et l'intelligence artificielle, nous simulons avec précision la formation de la structure à grande échelle de l'univers, l'évolution des galaxies et la distribution de la matière noire. Et en faisant correspondre les données d'observation avec les modèles théoriques, nous affinons notre compréhension de l'univers. Pourtant, de nombreux domaines inconnus restent à découvrir. La matière noire et l'énergie noire constituent 95% de la masse énergie de l'univers, mais nous ne connaissons pas leur vraie nature. Des tâches telles que la physique de l'univers primordial et immédiatement après le Big Bang, l'unification de la gravité et de la mécanique quantique à l'échelle de Planck, et la vérification de la théorie de l'inflation demeurent également. De plus, des théories telles que le multivers ou les dimensions supplémentaires ont été proposées, mais elles sont encore impossibles ou extrêmement difficiles à vérifier. En fin de compte, l'humanité dessine la carte de l'univers avec de plus en plus de détails, mais ce n'est rien de plus que l'exploration des côtes peu profondes d'une vaste mer inconnue. À mesure que la technologie d'observation et la théorie se développent, la profondeur de notre compréhension de l'univers augmente, mais en même temps, davantage de questions et de mystères apparaissent. De cette manière, la parole de l'Évangile de la Croix que les gens connaissent depuis les temps anciens n'est qu'une partie de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous pourrons savoir que l'Évangile devient l'Évangile parfait de l'eau et de l'Esprit seulement lorsque la parole que Jésus a été baptisé par Jean, a reçu le transfert des péchés du monde, et a lavé les péchés du monde est ajoutée. À propos de la théorie géocentrique d'Aristote et Ptolémée et de la théorie héliocentrique de Copernic. La théorie géocentrique présentée par Aristote et Ptolémée considérait la Terre comme fixe au centre de l'univers, avec le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournant autour de la Terre sur des orbites circulaires. Aristote expliqua que des sphères célestes parfaites et immuables entouraient la Terre, et Ptolémée systématisa cette idée mathématiquement dans l'Almageste. Pour expliquer le mouvement planétaire complexe connu sous le nom de mouvement rétrograde, il introduisit les épicycles et les excentriques, et ce modèle fut accepté comme la norme de l'astronomie occidentale pendant environ 1400 ans, de la période grecque au Moyen Âge. Une telle vision de l'univers renforça l'idée et la conception religieuse du monde selon laquelle les humains et la Terre étaient au centre de l'univers, et reposait sur la prémisse d'un univers harmonieux composé d'un mouvement circulaire parfait, et de sphères célestes immuables. En revanche, la théorie héliocentrique de Copernic affirmait que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil. Il expliqua que la Terre tourne également sur elle-même et que c'est la Terre qui se déplace, et non la sphère céleste, et il présenta cela systématiquement dans des révolutions des sphères célestes, 1543. Il expliqua naturellement le phénomène du mouvement rétrograde des planètes comme un phénomène apparent causé par la différence de vitesse orbitale de la Terre, et présenta un système plus simple et plus harmonieux basé sur l'orbite centrée sur le Soleil. Cette innovation, grâce au perfectionnement des observations et des calculs, devint le point de départ de la révolution scientifique qui mena à la théorie des orbites elliptiques de Kepler, aux observations télescopiques de Galilée et à la loi de la gravitation universelle de Newton. Elle provoqua un changement de perception selon lequel l'humanité n'est pas au centre de l'univers, exerçant une grande influence sur la philosophie, la théologie et la science dans son ensemble. Contrairement à la théorie héliocentrique, la théorie géocentrique considérait la Terre comme fixe au centre de l'univers et nécessitait des épicycles et des excentriques complexes pour expliquer le mouvement des planètes, renforçant ainsi une vision du monde anthropocentrique et religieuse. En revanche, la théorie héliocentrique a présenté un système simplifié dans lequel la Terre tourne sur elle-même et orbite autour du Soleil, expliquant naturellement le phénomène de mouvement rétrograde et mettant l'accent sur des lois naturelles basées sur l'observation et les preuves mathématiques. En raison de ces différences, la théorie géocentrique représentait la vision de l'univers centrée sur la Terre qui a perduré de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. Tandis que la théorie héliocentrique l'a renversée et a établi la vision de l'univers centrée sur le Soleil qui est devenu le fondement de la science moderne. À mesure que la science spatiale s'est développée, nous avons réalisé à quel point nos pensées peuvent être erronées. Le développement de la science a révélé les limites de la pensée anthropocentrique que l'humanité a eue pendant longtemps. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, les gens croyaient fermement à la théorie géocentrique selon laquelle la Terre était le centre de l'univers, mais avec les recherches de Copernic, Galilée, Kepler et Newton, il a été révélé que le système planétaire est en réalité centré sur le Soleil. Jusqu'au début du XXe siècle, on pensait que le système solaire était situé près du centre de la galaxie, mais aujourd'hui nous savons que le système solaire n'est pas situé au centre mais à la périphérie du bras d'Orion. En d'autres termes, il a été confirmé que le système solaire se trouve bien plus à la périphérie que les humains ne l'avaient jamais imaginé. De plus, dans le passé, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule galaxie dans l'univers, mais on sait maintenant qu'il existe plus de 2000 milliards de galaxies, et nous avons réalisé que la position de l'humanité dans l'univers devient de plus en plus insignifiante. De cette manière, à mesure que la science a progressé, la pensée humaine a également été continuellement révisée. À mesure que la technologie telle que les télescopes, les satellites et les observations d'ondes gravitationnelles se développent, les modèles ou théories autrefois considérées comme correctes sont révisées dans un éventail plus large d'observations. Le passage de la mécanique newtonienne à la théorie de la relativité en est un exemple représentatif. Plus on fait de nouvelles découvertes, plus on souligne qu'il y a bien plus de choses que nous ignorons que de choses que nous savons. Des domaines inconnus tels que la matière noire, l'énergie noire et l'ère de Planck en sont des exemples. La science souligne le fait que les humains font partie des lois de la nature plutôt que la pensée selon laquelle les humains sont le centre ou le but de l'univers. Ces changements ne signifient pas que les connaissances passées étaient complètement fausses, mais montrent plutôt qu'il s'agit d'un processus de sophistication croissante. La science ne possède pas la vérité parfaite dès le début, mais est un processus qui consiste à s'en approcher progressivement avec plus de précision par l'observation et l'expérimentation. Nous en venons à réaliser que les théories passées étaient des modèles simples qui n'étaient corrects que dans certaines conditions. Par exemple, La mécanique classique de Newton s'applique très bien aux faibles vitesses et à la faible gravité, mais une correction avec la théorie de la relativité générale d'Einstein est nécessaire dans des situations de forte gravité ou de vitesse proche de celle de la lumière. Finalement, le développement de la science spatiale a conduit les humains à réévaluer humblement leur position et leurs pensées. Cela a montré que les connaissances et la vision du monde du passé n'étaient pas complètement fausses, mais étaient des explications formées à partir d'informations limitées. Et à travers ce processus, l'humanité s'est dirigée vers une compréhension plus profonde et plus large. À mesure que la science se développe, nous réalisons à quel point la pensée humaine était imparfaite, tout en confirmant en même temps que la connaissance humaine devient de plus en plus large et plus affinée. Maintenant, nous devons être capables de comprendre non seulement le sang de Jésus sur la croix, mais aussi que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en étant baptisé par Jean. La connaissance de la Bible, qui s'est poursuivie depuis le Moyen Âge, s'est accumulée de manière constante jusqu'à présent. Le moment est venu pour les gens de regarder les paroles de la Bible en se basant sur la parole de Jésus selon laquelle il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. L'une d'elles est que les paroles de la Bible ne peuvent être comprises que si nous revenons à la parole de l'Évangile de l'eau et de l'esprit, en partant de la connaissance existante selon laquelle il nous a sauvés uniquement par le sang de la croix. Au Moyen Âge, seule la Bible en latin était distribuée, et les laïcs ne pouvaient pas lire les paroles directement. En conséquence, les gens en sont venus à croire principalement, à travers le credo de Nicée établi en 325 après Jésus-Christ, que Jésus est devenu notre Sauveur en étant crucifié, en versant son sang et en ressuscitant des morts. Pour cette raison, l'interprétation du credo de Nicée, selon laquelle le sang de la croix ôte le péché, a été particulièrement soulignée et transmise dans l'histoire de l'Église au cours des 1700 dernières années. Cependant, maintenant au XXIe siècle, nous avons découvert que Jésus est devenu le Sauveur qui a ôté nos péchés en recevant le baptême de Jean, faisant en sorte que les péchés du monde lui soient transférés, en étant crucifié, en versant son sang et en ressuscitant des morts. Les gens ont vécu en ne croyant qu'au credo de Nicée pendant environ 1700 ans. Cependant, je pense qu'il est heureux que nous, qui vivons au XXIe siècle, ayons découvert et soyons parvenus à croire le fait que Jésus, en recevant le baptême donné par Jean, a fait en sorte que les péchés du monde lui soient transférés et a lavé nos péchés d'un seul coup, à travers les paroles de Matthieu. Chapitre 3, versets 13 à 17. Tout comme les gens ont cru pendant longtemps à la théorie géocentrique mais ont finalement réalisé que la théorie héliocentrique, dans laquelle le soleil est au centre, est le vrai principe, maintenant, dans le domaine de la foi également, de plus en plus de gens commencent à réaliser la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la Bible. Alors que la compréhension spirituelle s'approfondit et que l'essence de l'Évangile est ainsi révélée, il est vraiment étonnant que des gens qui croient véritablement en Jésus-Christ et naissent de nouveau apparaissent partout dans le monde. Même aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont cru qu'au credo de Nicée, mais en réalité, ce n'était pas la foi de l'Église primitive. En d'autres termes, ce n'était pas l'Évangile auquel les chrétiens de l'Église primitive croyaient, mais un credo d'un faux Évangile élaboré par des politiciens. Le credo de Nicée était un credo d'une religion mondaine fabriquée par l'empereur romain pour atteindre ses propres objectifs politiques. L'empereur cherchait à réaliser l'unité de l'empire sous le nom de la religion. En conséquence, il a proclamé le credo de Nicée et a établi l'une des religions les plus universelles du monde. La religion qui est née de cette manière est la religion catholique. Cependant, cette religion catholique était la religion la plus universelle qui cherchait à intégrer toutes les religions de ce monde sans hériter de la foi des chrétiens de l'Église primitive. En termes simples, c'était une religion de tout le monde sans aucune caractéristique distinctive. Les rois qui convoitaient le pouvoir mondain ont toujours créé de nouvelles religions ou utilisé des religions spécifiques afin de renforcer leur autorité royale et d'atteindre leurs objectifs politiques. C'est un fait immuable, tant dans le passé que dans le présent. Cependant, après la réforme du XVIe siècle, alors que la Bible était traduite en allemand, le monde est devenu un lieu où quiconque pouvait lire la parole de Dieu. Saisissant cette occasion, les études du texte original de la Bible, ainsi que l'archéologie, la critique textuelle, la linguistique et la recherche sur le contexte historique, ont commencé à se développer plus activement. Quel était l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel les premiers chrétiens croyaient dans le Nouveau Testament? La parole de l'évangile à laquelle les chrétiens de l'Église primitive croyaient était la suivante: ils étaient ceux qui croyaient que Jésus, qui a reçu le baptême de Jean et a ainsi pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié et ressuscité des morts, comme leur sauveur. Dans le Nouveau Testament, Jean, chapitre 3, verset 5 dit: Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17, il est écrit que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a ainsi pris sur lui les péchés du monde. Parce que Jésus a reçu le baptême de Jean et a porté les péchés du monde, il était juste qu'il soit crucifié, qu'il verse son sang et qu'il ressuscite des morts pour devenir notre sauveur. Puisque Jésus a porté les péchés du monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean, il a désiré être crucifié, verser son sang, ressusciter des morts et ainsi accomplir son ministère. En d'autres termes, parce qu'il y a eu le ministère de Jésus recevant le baptême de Jean, il a pu devenir le sauveur des pécheurs par le ministère de la mort sur la croix et de la résurrection. Il n'y a pas eu une seule partie du ministère de Jésus, l'événement de la prise sur lui des péchés du monde par le baptême de Jean et l'événement de l'effusion de sang sur la croix, qui n'ait pas été importante. Le ministère de Jésus était absolument nécessaire pour l'effacement des péchés des pécheurs. La parole de la Bible nous montre clairement la vérité de notre nouvelle naissance. C'est que Jésus a reçu le baptême de Jean et a porté les péchés du monde dans le corps de Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus est celui qui a porté les péchés du monde, a été crucifié, a reçu le jugement pour tous les péchés, et a accompli le ministère du Sauveur. Jésus a reçu le baptême de Jean et a pris sur lui le jugement pour tous les péchés de l'humanité sur la croix à notre place, et est ainsi devenu le Sauveur de ceux qui croient maintenant. L'œuvre de salut que Jésus a accomplie sur cette terre était entièrement contenue dans son baptême, le sang de la croix, sa mort et sa résurrection. En entrant dans le 21e siècle, nous avons appris à connaître plus clairement le contexte de l'évangile de l'eau et de l'esprit grâce à l'étude des langues bibliques originales comme l'hébreu et le grec, ainsi que par la recherche sur les contextes historiques et culturels, et la comparaison avec la littérature de l'ancien Proche-Orient. Par conséquent, à travers toute la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous devons comprendre clairement la limitation du symbole de Nicée, d'où est exclu le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean. Nous pouvons voir que seule l'effusion du sang de Jésus sur la croix ne constituait pas l'intégralité de notre salut. Ce que dit l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est que parce que Jésus a reçu le baptême de Jean et a porté les péchés du monde, il a pu être crucifié, verser son sang, ressusciter des morts et devenir le Sauveur qui a effacé les péchés du monde. Par conséquent, à travers la parole de la Bible, nous devons connaître le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean, a porté les péchés du monde et les a lavés, et nous devons vivre par la foi qui croit en ce fait. Désormais, nous devons nous éloigner du symbole de Nicée qui ne met l'accent que sur le sang de la croix de Jésus. Nous devons être lavés de nos péchés en croyant en Jésus qui a reçu le baptême de Jean, et a ainsi pris sur lui les péchés du monde. Nous qui vivons aujourd'hui au 21e siècle possédons une connaissance biblique bien plus riche que les gens du Moyen Âge. Et Dieu a donné à ses serviteurs l'inspiration du Saint-Esprit afin qu'ils puissent réaliser la profonde parole de vérité par laquelle nous pouvons naître de nouveau d'eau et d'esprit. Maintenant, nous devons aller au-delà du symbole de Nicée établi en 325 après Jésus-Christ, et devenir ceux qui connaissent et croient en la justice du baptême de Jésus-Christ, et voient ainsi leurs péchés lavés. C'est la bénédiction de la foi que Dieu nous a donnée. En particulier, nous devons savoir que le symbole de Nicée, qui n'a souligné que le sang de la croix de Jésus, est plutôt devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui croient en Jésus pour recevoir l'effacement des péchés. Le symbole de Nicée a réduit la justice du baptême de Jésus-Christ attestée par la Bible, et est devenu un obstacle qui a obscurci cette vérité fondamentale. Aujourd'hui, parce que de nombreux croyants demeurent dans la foi du symbole de Nicée, ils en sont venus à ne pas rencontrer correctement le véritable évangile par lequel Jésus a lavé les péchés de l'humanité, à savoir, l'évangile de l'eau et de l'esprit. La contrefaçon qui diffère de l'évangile de l'eau et de l'esprit révélé dans la Bible est précisément la foi de croire uniquement en la croix de Jésus dont parle le symbole de Nicée. Dans le monde d'aujourd'hui, un évangile de la croix, qui est une contrefaçon différente de l'évangile de l'eau et de l'esprit, est largement répandue. Jésus a dit, « Si une personne doit naître de nouveau, elle doit naître de nouveau d'eau et d'esprit, mais les gens croient seulement en Jésus qui a été crucifié comme leur sauveur, ce qui est une contrefaçon et non la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. » La Bible nous conduit à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a été crucifié, est mort et est ressuscité, nous accordant ainsi l'effacement des péchés. Celui qui réalise cette vérité, que le Seigneur nous a maintenant sauvés des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, est celui qui s'attache fermement à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit attestée par la Bible. Par conséquent, nous devons naître de nouveau par la foi en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a tous permise, et nous devons devenir ceux qui sont sauvés de leurs péchés. De nos jours, de nombreuses personnes ont vécu leur vie de foi en se basant sur la croyance du Credo de Nicée. En conséquence, ceux qui croient uniquement en la croix de Jésus comme salut et essaient de laver leurs péchés par eux-mêmes par des prières de repentance chaque fois qu'ils pêchent sont devenus des gens qui, ne connaissant pas la justice de Jésus, ne sont pas parvenus à la foi véritable. Cependant, cette manière de croire conduit finalement à une souffrance sans fin à cause du péché. Beaucoup de gens, chaque fois qu'ils essaient de purifier leurs péchés, finissent par répéter des prières de repentance, et, épuisés et découragés, ils finissent par abandonner leur vie de foi. Par conséquent, la simple confession « Le Seigneur a accompli notre salut sur la croix » ne peut résoudre complètement l'agonie du péché dans le cœur, et l'on finit par gaspiller sa vie dans une pratique religieuse sans fin en vue. Maintenant, nous devons avoir la foi qui élimine nos péchés par la connaissance de nos péchés et le retour en arrière, et en croyant au fait que Jésus a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde dans son corps, et est allé à la croix. Une telle foi est la foi qui conduit à naître de nouveau d'eau et d'esprit. La vie religieuse qui consiste à lutter chaque jour pour l'effacement de ses péchés a dû souvent sembler ne pas être différente de la croyance en une superstition. N'avez-vous pas eu vous-même une telle pensée? En un tel temps, Jésus-Christ a maintenant, au 21e siècle, établi devant vous ceux qui témoignent de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. La parole de l'évangile, attestée par les témoins, est clairement consignée dans Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pourquoi la plupart des dénominations chrétiennes d'aujourd'hui en sont-elles venues à ne pas connaître la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Lorsque nous examinons historiquement la question « Pourquoi l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a-t-il disparu de la plupart des dénominations aujourd'hui ?» nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas simplement d'une question de débat doctrinal, mais d'un processus historique très important dans l'histoire de l'Église. Montrant comment l'évangile du baptême de Jésus et de la croix a été remplacé par une théologie centrée sur l'homme. Ce processus peut être examiné en cinq étapes, du 1er siècle au 21e siècle. Premièrement, l'ère de l'Église primitive fut une période où l'évangile du baptême de Jésus et de la croix était proclamé comme un seul. Les apôtres ont clairement témoigné que Jésus a été baptisé par Jean, et a ainsi pris sur lui les péchés du monde. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 15, Jésus a dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et dans Jean, chapitre 1, verset 29, il a été proclamé, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » De plus, dans Actes, chapitre 2, verset 38, Pierre s'est écrié, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, témoignant de l'évangile de la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. » Le baptême de cette période n'était pas un simple rituel, mais un témoignage de la foi du transfert et de la purification du péché, et l'évangile de l'eau et de l'esprit était transmis sous une forme très pure. Cependant, après que les apôtres eurent quitté le monde, l'Église s'est progressivement organisée au sein de l'Empire romain, et l'interprétation philosophique ainsi que le mysticisme ont commencé à s'infiltrer. À l'époque des Pères de l'Église, des théologiens tels qu'Origène et Clément de l'école d'Alexandrie, influencés par la philosophie grecque, en particulier le platonisme, commencèrent à changer le fait réel du transfert dans le baptême en une foi symbolique. À partir de ce moment, l'interprétation doctrinale a pris le pas sur la foi, et l'Évangile s'est philosophé. On a commencé à parler de l'événement du baptême de Jésus non pas comme l'événement par lequel tous les péchés de l'humanité étaient transférés, mais simplement comme un exemple d'humilité. Le Concile de Nicée, tenu en 325 après Jésus-Christ, fut le point décisif où l'évangile du baptême de Jésus fut officiellement retiré de la doctrine. Lorsque l'empereur Constantin a incorporé le christianisme dans la religion de l'Empire romain et l'a promu comme religion d'État, le credo de Nicée qui en a résulté a établi la définition théologique selon laquelle Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Mais il n'incluait pas la vérité que Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde et les a lavés. Le processus du salut a été changé d'une continuité du baptême à la croix, et de la croix à la résurrection à un processus de l'incarnation à la croix, et de la croix à la résurrection. En conséquence, l'évangile de l'eau et de l'esprit a été remplacé par une doctrine trinitaire centrée sur la logique humaine, et par conséquent, l'évangile de l'eau et de l'esprit a disparu dans l'histoire, ne laissant qu'une foi centrée sur la croix. Au début du Moyen Âge, les doctrines religieuses catholiques ont été institutionnalisées, et la foi centrée sur les sept sacrements s'est formalisée. L'Église catholique romaine, basée sur le credo de Nicée, a établi le système des sept sacrements, mais le baptême a été transformé d'un ministère de purification des péchés en un signe symbolique de leur enlèvement, et ainsi l'évangile du baptême, dans lequel le péché était réellement transféré, a disparu de cette terre. Après cela, à mesure que le sacrement du baptême, administré par un prêtre catholique, a été institutionnalisé comme le chemin du salut, l'autorité de l'Église est devenue absolue, l'emportant sur la foi personnelle du croyant. Par conséquent, la vérité évangélique selon laquelle l'on devient sans péché en croyant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit s'est évanouie, et à sa place, une foi formaliste a pris racine, affirmant que le salut est obtenu par les sacrements catholiques du baptême, de la pénitence et de la participation à la messe. Après la réforme, des réformateurs tels que Martin Luther et Jean Calvin ont cherché à être sauvés par la foi à travers la doctrine de la justification par la foi, mais ils n'ont pas considéré l'événement du baptême de Jésus par Jean comme le cœur du salut. Luther a interprété le sacrement du baptême, dont parlait le catholicisme, comme un signe de la foi, et Calvin l'a défini uniquement comme un signe de l'alliance. En conséquence, le sang de la croix a été mis en avant, mais le fait que les péchés du monde ont été transférés à Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean n'a pas été proclamé. Du 19e au 21e siècle, l'évangélisme, le pentecôtisme et les mouvements charismatiques ont vu le jour, mettant l'accent sur l'expérience du Saint-Esprit, mais la vérité réelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit est restée cachée à leurs yeux. En résumant tous ces processus, l'Église primitive avait l'évangile du baptême et de la croix unis en un seul, mais avec l'entrée de l'interprétation philosophique à l'époque patristique, l'Évangile a été symbolisé, et lors du Concile de Nicée, l'Évangile du baptême a été doctrinalement éliminé. Au Moyen Âge, en raison de l'institutionnalisation de l'Église et de l'établissement des sept sacrements, le sacramentalisme formel s'est implanté, et après la Réforme, la restauration de la foi a été tentée, mais le concept du transfert par le baptême est resté absent, et ce, jusqu'à nos jours. Par conséquent, le christianisme mondial, ignorant la vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a pris sur lui les péchés du monde pour les ôter par le lavage, a fini par mettre l'accent uniquement sur le Jésus crucifié, et a dégénéré en une religion mondaine. Finalement, l'évangile de l'eau et de l'esprit est devenu l'évangile perdu. Cependant, cet évangile doit être récupéré et restauré comme l'évangile du salut. Seuls ceux qui croient que le péché a été transféré à Jésus par le baptême, que le péché a été jugé sur la croix, et qu'une nouvelle vie a été donnée par la résurrection peuvent véritablement entrer dans le royaume de Dieu. Par conséquent, nous sommes devenus ceux qui portent la responsabilité de récupérer la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit de l'Église primitive en croyant que le baptême que Jésus a reçu de Jean pour porter les péchés du monde a lavé les péchés des pécheurs. Le salut du péché dont il est question dans l'Ancien et le Nouveau Testament n'a pas été accompli uniquement sur la croix. Il proclame qu'en raison du ministère de Jésus étant baptisé par Jean, nos péchés ont pu être transférés au corps de Jésus-Christ et lavés. C'est-à-dire que ce message de l'Évangile signifie que Jésus a pris les péchés du monde sur son corps en étant baptisé par Jean, et qu'il est donc allé à la croix pour y être cloué et ressuscité d'entre les morts, et est maintenant devenu notre Sauveur. La série d'événements, Jésus prenant les péchés du monde en étant baptisé par Jean, étant cloué sur la croix, et ressuscitant d'entre les morts, était un processus continu de salut. Tous ces événements étaient la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui était dans le plan de Dieu, et la parole de l'Évangile de la vérité qui nous fait naître de nouveau. Le fait que les péchés du monde aient été transférés à son corps lorsque Jésus a été baptisé par Jean est maintenant devenu la bénédiction du vrai salut pour nous. Vu de cette manière, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit était une parole de l'Évangile bien plus complète et entière que l'Évangile du Credo de Nicée, qui dit que le salut s'obtient uniquement par le sang de la croix. Le Seigneur est celui qui nous a donné l'enlèvement des péchés et le don du Saint-Esprit à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceci est clairement et certainement attesté par les paroles de Jean, chapitre 3, verset 5 et Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 17. Aujourd'hui, nous avons un environnement qui nous permet d'étudier la langue, l'arrière-plan et le contexte de la Bible bien mieux qu'avant la création du Credo de Nicée. Sur la base de cette connaissance, nous pouvons être sauvés en rencontrant le Seigneur qui non seulement a versé son sang sur la croix, mais a aussi pris les péchés du monde par le ministère du baptême de Jean, a été crucifié et a versé son sang, et est ressuscité d'entre les morts. Lorsque nous croyons en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous pouvons avoir une foi plus ferme d'être délivrés de tous nos péchés. Alors, ne devrions-nous pas nous détourner de la foi du Credo de Nicée et revenir à croire de nouveau en l'eau et en l'Esprit ? Le symbole de Nicée a été établi au concile convoqué par l'empereur romain Constantin en l'an 325 après Jésus-Christ, où les affirmations des Ariens ont été réfutées et Jésus a été présenté comme vrai Dieu et vrai homme, établissant ainsi la doctrine de la Trinité. Cependant, ce symbole n'a pas inclus la vérité de la parole selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde et les a lavés. Lorsque la religion catholique fut reconnue comme religion d'État de l'Empire romain, ils cherchèrent à créer la forme de religion la plus universelle pour éviter les conflits et les disputes avec les autres religions. En conséquence, la croix et la résurrection de Jésus seuls furent mises en avant comme si elles constituaient l'intégralité du salut, et la vérité de l'Évangile selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi pris sur lui et lavé nos péchés ne fut pas accueillie dans leur cœur, et ils devinrent ceux qui l'excluaient. De cette manière, la vérité de l'Évangile selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a personnellement porté les péchés du monde a été complètement exclue du Credo de Nicée. Puisque l'époque où ils ont créé ce Credo était en 325 après Jésus-Christ, pendant environ 1700 ans jusqu'à aujourd'hui, la vérité de l'Évangile selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde est restée exclue du Credo. Ils sont devenus ceux qui, pendant 1700 ans, ont exclu la parole de l'Évangile du baptême du Credo de Nicée afin que ceux qui croyaient en Jésus ne la connaissent pas. Qu'ils l'aient fait sciemment ou non, du point de vue de la croyance en la vérité de la parole selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde et les a lavés une fois pour toutes, cela ne peut qu'être une affaire vraiment regrettable. De 325 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, en l'an 2025, ceux qui ont cru au Credo de Nicée ont traversé jusqu'à 1700 ans sans connaître la vérité de la parole de l'Évangile selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et les a lavés. Jusqu'à présent, ceux qui ont voulu croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est la justice de Jésus, doivent être considérés comme ayant subi un préjudice pendant 1700 ans de la part de ceux qui ont rédigé le Credo de Nicée. Par conséquent, même aujourd'hui, nous devons nous détourner de la foi qui consiste à croire au Credo de Nicée, et devenir ceux qui rendent grâce en recevant la rémission des péchés par la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Désormais, ceux qui désirent croire en Jésus doivent retrouver la foi que Jésus a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde, a été crucifié, est mort et est ressuscité, et est devenu notre Sauveur. Ceux qui ne croient qu'en la croix de Jésus aujourd'hui demeurent des gens qui ont encore le péché, car ils s'en tiennent uniquement à leur foi religieuse sans connaître l'Évangile de la vérité. Maintenant, nous devons devenir ceux qui retrouvent la foi que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde une fois pour toutes, et a été crucifié, est devenu le véritable sauveur des pécheurs. Ceux qui désirent la rémission des péchés dans leur cœur doivent, désormais, tenir fermement la foi que le Seigneur a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde, et a été crucifié pour payer le prix du péché et est devenu notre sauveur. Vivez-vous par une foi qui a été lavée et rendue blanche comme la neige en croyant que Jésus a porté les péchés de vos cœurs par le baptême qu'il a reçu de Jean? Vivez-vous comme un peuple de Dieu qui n'a pas de péché dans vos cœurs? Ou, bien que vous croyez en Jésus comme votre sauveur, vivez-vous encore lié par le péché dans votre cœur? Êtes-vous de ceux qui s'efforcent de laver leurs péchés par des prières de repentance? Avez-vous déjà reçu la rémission des péchés en croyant à la vérité que le Seigneur a reçu le baptême de Jean, a pris sur lui les péchés du monde qui étaient dans votre cœur, et les a portés? Si tel n'est pas le cas, alors vous vivez encore une vie religieuse en tant que croyant au credo de Nicée, et vous n'en avez pas encore échappé. Peut-être n'avez-vous jamais, jusqu'à présent, entendu correctement le fait que Jésus a complètement enlevé nos péchés du monde par la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si c'est le cas, alors même maintenant, j'espère que vous reviendrez, que vous lirez le livret de sermon du pasteur Paul Sidjon intitulé « Êtes-vous vraiment né de nouveau d'eau et d'esprit ?» Nouvelle édition révisée, et que vous deviendrez de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Vous êtes ceux qui ont cru au credo de Nicée, et par conséquent, vous êtes ceux qui ont besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux qui ressentent le besoin que leur âme soit sauvée du péché, il est nécessaire d'apprendre et de croire pourquoi le baptême que Jésus a reçu de Jean était nécessaire. Il est clair que le credo de Nicée que nous avons connu jusqu'à présent a exclu le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean et a pris sur lui les péchés du monde. Nous devons savoir que, parce que nous avons cru en Jésus sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à présent, il est vrai que les péchés dans nos cœurs n'ont pas été résolus. Par conséquent, nous devons accepter et croire en Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde, a été crucifié, est mort et est ressuscité, comme notre Sauveur. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir ceux qui sont nés de nouveau. Ce n'est qu'alors que nous pouvons devenir ceux qui reçoivent le salut parfait de nos péchés. Ceci n'est pas un simple débat théologique. Son but est de restaurer la véritable foi du salut en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui a été omis du symbole de Nicée. Les paroles du Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17, montrent le ministère de Jésus recevant le baptême de Jean et prenant ainsi sur lui les péchés du monde. Les paroles de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 4, verset 5, « Je vous enverrai Élie », font référence dans le Nouveau Testament, Matthieu, chapitre 3, verset 15, à Jean-Baptiste. Ce sont les paroles prononcées par Jésus depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Matthieu, chapitre 11, versets 12 à 14. Le ministère dans lequel Jésus a été baptisé par Jean et a reçu les péchés du monde dans son corps n'était pas un simple rituel baptismal, mais un ministère pour transférer tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Maintenant, nous devons jouir de la paix dans nos cœurs en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, par lequel Jésus a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde dans son corps, et a lavé nos péchés. En d'autres termes, nous devons nous souvenir qu'en croyant en cette parole de vérité, nous devons avoir la foi de la nouvelle naissance. Et devant la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui nous a fait naître de nouveau, nous devons vivre le reste de nos vies avec gratitude dans la foi. Jean-Baptiste baptisait les gens dans le Jourdain, et c'est aussi lui qui a baptisé Jésus. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ces paroles prononcées par Jésus témoignent du fait que Jésus a été baptisé par Jean, et a ainsi reçu les péchés du monde. Matthieu, chapitre 3, versets 15 à 16. La toute justice dont il est question ici était la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde, et les a lavés une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains était l'acte de transférer les péchés du pécheur sur l'offrande sacrificielle. De la même manière, Le baptême de Jésus par Jean fut le transfert de tous les péchés de l'humanité sur Jésus. Le ministère du baptême de Jésus fut l'événement qui a montré la vérité de l'accomplissement de la parole promise dans le Lévitique, à savoir, la parole prophétique selon laquelle, par l'imposition des mains, les péchés du peuple seraient transférés sur le corps de Jésus. Lévitique, chapitre 1 à 7. Parce que Jésus a été baptisé par Jean et a reçu les péchés du monde, il est allé à la croix, a été cloué, est mort, et est ressuscité des morts pour sauver ceux qui croient. Cette vérité était l'œuvre du salut dans laquelle Jésus, en étant baptisé par Jean, a porté et lavé les péchés du monde, et Jésus était celui qui a obéi à l'œuvre d'accomplir réellement le plan de salut que Dieu le Père avait préparé. Immédiatement après que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent, le Saint-Esprit descendit sur lui, et la voix de Dieu se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 3, verset 17. Ces paroles étaient les paroles de Dieu le Père lui-même reconnaissant que son Fils, Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean et a porté les péchés du monde, était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et qui a obéi pour accomplir la volonté de Dieu. Par conséquent, le baptême que Jésus a reçu de Jean n'était pas un simple rituel, mais une œuvre de salut qui a révélé son obéissance pour accomplir la volonté de Dieu le Père. En d'autres termes, le baptême de Jésus par Jean fut le ministère dans lequel il a obéi au plan de salut de Dieu de porter et de laver les péchés de l'humanité dans son propre corps, et cela nous a montré le processus par lequel la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité, s'accomplit. J'espère que vous tous, vous croirez en cette parole et recevrez la bénédiction de l'effacement des péchés. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Comment avez-vous réfléchi au baptême que Jésus a reçu de Jean, et comment l'avez-vous compris jusqu'à présent? Avez-vous peut-être pensé que Jésus a été baptisé par Jean simplement pour montrer de l'humilité? Vous ne saviez probablement pas que les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament disent que le baptême que Jésus a reçu de Jean était l'œuvre par laquelle il a pris sur lui, et a lavé les péchés du monde. La raison pour laquelle vous ne connaissiez pas ce fait, c'est que vous êtes resté longtemps dans la foi du symbole de Nicée, et, par conséquent, vous n'avez pas réalisé à quel point le baptême de Jésus est une vérité importante. Par conséquent, nous devons nous poser les questions suivantes : ai-je déjà réfléchi profondément au fait que tous mes péchés ont été transférés à Jésus lorsqu'il a été baptisé par Jean ? Ai-je déjà entendu la parole selon laquelle mes péchés ont été transmis au corps de Jésus ? Ai-je vraiment cru que Jésus a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui les péchés du monde, et qu'à cause de cela, il est allé à la croix ? Ai-je déjà cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ? Les réponses à ces questions nous aident grandement à croire plus fermement en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné. Parce que Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi pris les péchés du monde sur son corps, son œuvre de mort sur la croix et sa résurrection sont devenues une œuvre complète de salut qui ne peut jamais être séparée. C'est une vérité immuable pour toujours. Le baptême que Jésus a reçu de Jean n'était pas un simple rituel religieux, mais l'œuvre de prendre sur son corps les péchés de l'humanité une fois pour toutes. Jésus-Christ a été baptisé par Jean afin de porter vos péchés et les miens, les péchés du monde. Et c'était pour accomplir toute la justice de Dieu. Par conséquent, nous devons réaliser et croire que le baptême, la croix et la résurrection de Jésus sont la parole de vérité qui accomplit maintenant notre salut de nos péchés, et devenir le peuple de Dieu qui reçoit l'effacement des péchés par la foi. Le fait que Jésus ait été baptisé par Jean et crucifié est devenu la parole de l'Évangile de vérité qui nous fait naître de nouveau d'eau et d'esprit. Le fait que Jésus a été baptisé par Jean, a été cloué sur la croix, et est ressuscité des morts est l'Évangile de vérité qui apporte le vrai salut à nous qui croyons en Jésus. Saints bien-aimés, recevez dans vos cœurs le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sang de la croix. Alors vos péchés seront lavés, et au moment même où vous croirez, vous vous tiendrez devant Dieu non plus comme un pécheur, mais comme quelqu'un qui est devenu juste. Cette foi devient la parole de l'Évangile de la nouvelle naissance dont vous avez besoin. Il semble que le temps soit venu de faire une réforme de la foi qui croit en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La réforme a eu lieu au XVIe siècle, et certains d'entre eux ont traversé vers le nouveau continent, l'Amérique, pour y déployer leur monde de foi. Cependant, nous en venons à réaliser que le rêve qu'ils chérissaient n'était rien de plus qu'un espoir. Ils prirent la résolution de vivre selon la parole de Dieu avec la foi que partout où la parole de Dieu ira, nous irons, et quand elle s'arrêtera, nous nous arrêterons. Cependant, au plus profond de leur cœur, l'influence du symbole de Nicée demeurait encore. En fin de compte, bien qu'ils se soient extérieurement détachés des formes du catholicisme, la doctrine fondamentale de la foi catholique, la foi de ne croire qu'au sang de la croix, restait toujours au centre de leur cœur. Ils vécurent avec la conviction que s'ils croyaient seulement au symbole de Nicée, ils seraient sauvés. C'est parce qu'ils étaient déjà devenus ceux qui acceptaient le symbole de Nicée créé par le catholicisme tel qu'il était. Ils sont restés dans la foi de ne croire qu'à l'évangile selon lequel Jésus a versé son sang sur la croix, tel qu'il est écrit dans le symbole de Nicée. De plus, de nombreux théologiens, dont Calvin, Luther et Zwingli, les théologiens représentatifs du christianisme, sont aussi finalement restés dans le système de foi du symbole de Nicée. À titre d'exemple, le catholicisme a utilisé le sacrement de la confession comme un moyen de laver les péchés de ses croyants. De même, le christianisme d'aujourd'hui a établi la doctrine de la prière de repentance, enseignant que lorsqu'une personne commet un péché, elle doit le laver par une prière de repentance. On a enseigné aux gens qu'ils devaient croire de cette manière, et ils la suivent encore à ce jour. Mais beaucoup de gens savent-ils que la doctrine de la prière de repentance et la doctrine de la confession sont essentiellement la même chose? Non seulement cela, mais l'Église catholique a établi une doctrine qui dit que le péché originel est effacé lorsque l'on reçoit le sacrement de l'Eucharistie. De même, le christianisme a enseigné que le péché originel est effacé lorsque l'on est baptisé, et que les péchés personnels sont lavés lorsque l'on offre des prières de repentance. Par conséquent, on peut dire qu'aujourd'hui la foi de la religion catholique et celle des églises réformées sont à environ 80 à 90% les mêmes. Dans un tel état, même si une autre réforme devait se produire, aucun changement n'aurait lieu. Par conséquent, ce dont nous avons besoin dans nos cœurs, c'est la foi qui croit en la parole de vérité selon laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et les a lavés. Ce à quoi nous devons réfléchir profondément, c'est que nous devons maintenant devenir ceux qui croient en la vraie parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et retourner dans les bras de Jésus. Alors que devrions-nous faire? Nous devons retourner au Seigneur qui, en étant baptisé par Jean, a pris sur lui, et a lavé les péchés du monde, et qui, en versant son sang sur la croix, a entièrement payé le prix de nos péchés, et nous a sauvés. Cependant, il est douteux que les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui renoncent vraiment à leurs intérêts personnels. Ce n'est pas une chose facile pour les chrétiens et les dirigeants d'aujourd'hui de retourner à Jésus. Ce que nous devons maintenant retenir comme le plus important est le fait que chacun doit retourner à Jésus en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons croire cette vérité, que Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi pris sur lui, et a lavé les péchés du monde, et, à partir de nous-mêmes d'abord, provoquer une réforme de la foi. Les chrétiens d'aujourd'hui ne doivent plus demeurer dans la foi qui consiste à croire uniquement dans le sang de la croix. Désormais, nous devons croire en l'œuvre par laquelle Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, a lavé nos péchés, et a reçu le jugement pour nos péchés sur la croix. Le temps est maintenant venu pour ces deux religions, le christianisme et le catholicisme, de subir une réforme de la foi. C'est seulement alors que nous pourrons devenir ceux qui sont sauvés du péché. Aussi, nos âmes doivent recevoir l'effacement des péchés afin de participer à la gloire de Dieu. Par conséquent, nous devons participer à la réforme de la foi en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi pris sur son corps, et a lavé les péchés du monde, et en étant cloué sur la croix, et en versant son sang, il est devenu notre sauveur maintenant. Nous devons nous attacher à cette foi, et devenir ceux qui accomplissent la réforme de la foi. En cette ère, Dieu déverse la foi et la puissance sur nous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, afin que nous puissions susciter un mouvement de réforme de la foi. Jésus-Christ vous élève, vous et moi, comme des réformateurs de la foi en ce dernier âge. Dieu œuvrera avec ceux qui sont nés de nouveau jusqu'au jour où sa volonté sera accomplie dans le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier connaît de nombreuses difficultés, tant spirituelles que physiques. Vivant à une telle époque, Nous devons d'autant plus vivre le reste de nos vies comme ceux qui accomplissent la réforme de la foi en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et rencontrer le Seigneur. Récemment, de nombreux pasteurs et croyants de divers pays ont rapporté qu'ils ont cru en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, ont reçu l'effacement des péchés dans leur cœur, et ont été transformés, et nous ne pouvons qu'en rendre grâce et gloire à Dieu. Nous rendons des grâces encore plus grandes à Dieu pour le fait que d'innombrables personnes dans le monde entier aspirent à cette parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Aussi, de nos jours, de nombreuses personnes téléchargent nos livres de sermons en tant que livres électroniques, livres audio et éditions combinées. Nous sommes devenus des réformateurs de la foi en cette ère, prêchant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui plaît au Seigneur. Si vous croyez en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans votre cœur, vous en viendrez à goûter que l'effacement éternel des péchés est accompli dans votre cœur. Nous pouvons recevoir l'effacement des péchés en croyant que Jésus a été baptisé par Jean et a ainsi pris sur lui les péchés du monde, et qu'en étant cloué sur la croix, et en versant son sang, il est devenu notre sacrifice expiatoire. Dieu veut que nous vivions en faisant de la foi par laquelle nous avons reçu l'effacement des péchés, c'est-à-dire, la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la nourriture pour nos esprits. La foi qui plaît à Dieu est la foi de ceux qui, en ce moment même, ont reçu l'effacement des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Au sein de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est contenue la foi que Jésus, par le baptême qu'il a reçu de Jean, et le sang sacrificiel qu'il a versé sur la croix, a enlevé nos péchés. Nous devons devenir ceux qui ont reçu l'effacement des péchés en croyant en la véritable parole de salut, cet Évangile, qui plaît à Dieu. D'un autre côté, ceux qui ont encore le péché dans leur cœur, mais pensent qu'ils deviendront sanctifiés à l'avenir, doivent savoir que Dieu ne prend pas plaisir en eux. Par conséquent, nous devons croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans nos cœurs, inscrire la justice de Dieu dans nos âmes, et avoir la foi qui plaît à Dieu. Maintenant, nous devons tous nous examiner pour voir si nous vivons avec la foi de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui plaît à Dieu. Nous ne devons pas rester comme des gens qui croient simplement avec zèle en des doctrines religieuses comme le Credo de Nicée. Nous devons vivre en tant que ceux qui ont été sauvés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné. Nous devons réfléchir profondément une fois de plus pour savoir si nous croyons vraiment dans nos cœurs que Jésus a été baptisé par Jean, prenant ainsi sur lui les péchés du monde, et que l'œuvre qu'il a accomplie en versant son sang sur la croix est la vérité du salut. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure d'une personne, mais au centre du cœur. Par conséquent, nous devons avoir une foi qui ne se contente pas de croire au Credo de Nicée, mais une foi qui connaît et croit au Seigneur qui, en étant baptisé par Jean, a pris les péchés du monde sur son corps, et, en versant son sang sur la croix, a enlevé nos péchés une fois pour toutes. Nous devons rendre grâce à Dieu, qui est plein d'amour et de bonté, avec une foi qui croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons aussi louer Dieu par la foi pour l'œuvre du Seigneur, qui est devenue la propitiation pour nous, et qui, en étant baptisé par Jean, a pris sur lui, et a lavé les péchés du monde. À l'avenir, les gens essaieront d'avoir la foi de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, même au prix de leur vie dans les derniers jours. Par conséquent, nous devons maintenant vivre chaque jour par la foi pour la réforme de la foi. Nous prions que Dieu nous protège, et accomplisse sa volonté. Alléluia !